intéresser à Mgr Pierre-Marie Théas grâce à vous, Père Régis Marie de la Tessonnière. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chapelain du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. On vous connaît pour les ouvrages que vous avez publiés sur le message de Lourdes, sur Sainte Bernadette, sa spiritualité. Et voici que vous en êtes à votre deuxième livre, deuxième publication sur Mgr Théas, qui est connu peut-être d'un certain nombre de ceux qui nous écoutent parce que Mgr Théas, à l'été 1942, dénonce la persécution des Juifs. Il est à Montauban, évêque de Montauban. Il deviendra plus tard évêque de Tarbes-et-Lourdes. Mais vous allez nous raconter toute cette histoire. Les deux premiers ouvrages que vous publiez sur Mgr Théas, qui sont les deux premiers d'une belle série, je pense, vous nous le direz peut-être plus tard. Le premier, c'est Méprison et leur premier lendemain, juin-décembre 1944, avec face de Mgr Brouvet, paru aux éditions Onto. Ça s'écrit O-N-T-A-U.
Voilà.
Et le second, c'est Homélie pour la fête de Notre-Dame de Lourdes. Nous allons parler de Marie, de la Vierge Marie, de sa place dans la vie de foi de Mgr Théas, comment lui, comme évêque, il a promu la place de Marie dans la vie de foi. Nous parlerons de l'homme de Vatican II qu'il fut. Mais auparavant, peut-être ce qu'il a révélé, arrêtons-nous sur cela. Pierre-Marie Théas, qui est-il? Parce qu'on ne le connaît qu'à travers cet été 1942, enfin en tout cas, c'est l'épisode le plus connu, lorsqu'il dénonce la persécution des Juifs, et que là, très, très fortement, il va se mettre en danger, quoi qu'il faut dire, il va être interné. Qui est cet homme, Pierre-Marie Théas? D'où vient-il? Où est-il né? Quelle est sa trajectoire?
C'est d'abord un paysan. Il est né à Parzin. Parzin, c'est un petit village de 396 habitants à son époque. Il est né le 14 septembre 1894, le 14 septembre. Il est le cinquième fils d'une fratrie de 7 garçons. Voilà. Comme on disait à l'époque, des cultivateurs. Son père, donc, est cultivateur, le frère de son père est prêtre, et la sœur de son père est religieuse. Voilà un petit peu l'environnement. Il a connu une vie, comme il dit lui-même, austère, axée sur le travail, mais aussi une vie de foi, enracinée dans une des choses qui le caractérise. Quand il parle de Barzin, son village natal, il parle en même temps de sa famille, en même temps de ce village, de la communauté humaine que représente ce village, et en même temps de sa paroisse. Pour lui, ça ne fait qu'un. Il est resté toute sa vie profondément attaché à ce petit village. Vie de travail, vie de foi, et vie aussi qui va le faire être pèlerin dès son plus jeune âge, pèlerin de Bétharram, pèlerin de Lourdes. Voilà. Barzin, c'est à peu près 16-17 km de Lourdes, dont ça se faisait à pied. On partait tôt le matin, on allait à la grotte et on revenait le soir, avant la nuit. Le Bétharram, c'est un peu plus près, mais il y a la colline à franchir, donc on met à peu près le même temps. Et ça va profondément le marquer. En plus de ça, le fait que Saint-Michel Garicoïd a été béatifié quand il était assez jeune. Il sera canonisé, Saint-Michel Garicoïd, le fondateur des Pères de Bétharram, il sera canonisé quand il sera devenu évêque. Quand il est jeune, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est béatifiée, voilà, et elle sera canonisée quand il sera professeur de théologie morale au séminaire de Bayonne. Et la même chose avec la petite Bernadette Soubirousse, elle va être béatifiée en 1925, à ce moment-là, il est canonisé en 1933. À ce moment-là, il est professeur au séminaire de Bayonne. Donc, ces saints qui vont vraiment l'accompagner pendant toute sa vie, Michel Garicoïd, Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, Bernadette Soubirousse, il a vécu très, très près d'eux, pas simplement pour connaître leur vie, mais vraiment pour partager leur expérience spirituelle, s'en nourrir et la transmettre. Voilà, donc un paysan et un homme de Dieu.
Il est prêtre, ordonné prêtre en 1920.
C'est ça.
D'après ce que vous écrivez, une petite notice qui est derrière l'ouvrage. Est-ce qu'il a parlé de sa vocation, Mgr Théas? Ce sont tous ces saints qui, quelque part, ont
alors,
nourri cette vocation.
Il a parlé de sa vocation de façon très, très émouvante. Monseigneur Théas est un homme qui est plutôt discret, plutôt introverti, donc il ne n'ouvre pas son cœur comme ça. Voilà. Cependant, il l'a fait une fois, après avoir été nommé évêque de Montauban et ordonné évêque à la cathédrale de Bayonne, on est pendant l'occupation. Bayonne est en zone occupée, Montauban est en zone non occupée. Il passe la frontière dans la région d'Orthez et il s'arrête à Lourdes et le lendemain à Barzin, son village natal, pour le nouvel évêque, va célébrer une messe avant de rejoindre son diocèse, avant de rejoindre Montauban, on est le 13 octobre 1940. Et il va ouvrir son cœur. Je lis ce qu'il dit à ses compatriotes, les Barzunais. Un petit paysan est né dans cette paroisse, a été baptisé dans cette église, il y a 46 ans. Un petit paysan qui, pendant son enfance, s'est livré aux travaux agricoles de son âge, qui a, comme ses frères et ses camarades, connu la vie austère d'il y a 40 ans. Ce petit paysan se présente aujourd'hui dans la majesté et la splendeur des ornements pontificaux. Malgré son indignité, le bon Dieu a regardé ce petit paysan et l'a choisi pour en faire le successeur des apôtres, pour lui donner la plénitude du sacerdoce, pour lui faire régir un diocèse et le faire participer au gouvernement de l'Église de Dieu. Avec émotion, je vous livre un secret jamais confié. Il y a 40 ans, sur une marche de cet autel, du côté de l'Évangile, donc du côté de gauche quand on regarde l'autel, pour un salut du Saint-Sacrement, les yeux d'un petit enfant de 6 ans furent attirés d'une manière très sensible par la blanche hostie, et au balbutiement de la foi de cet enfant, la grâce divine pénétra dans son âme et y mit le désir de l'hostie et le désir du sacerdoce. Cette grâce eucharistique, je l'ai reçue dans notre Église. Mais, poursuit Mgr Théas, mais Dieu a aussi travaillé mon âme en se servant d'intermédiaires providentiels, ma famille et ma paroisse. Je pense à mes défunts parents, grands-parents, aïeux. Il y a eu dans leur vie un grand exemple de vertu chrétienne. Par eux, Dieu a marqué mon âme. J'évoque le souvenir de mon oncle, qui dans le presbytère de l'Escar accueillit très jeune son neveu, le presbytère qui fut mon premier et mon meilleur séminaire. J'évoque le souvenir de ma tante, servante de Marie, qui veilla sur mon enfance et mon adolescence. Par cette influence familiale, Dieu préparait mon âme. Il y a aussi la famille paroissiale. À Barzin, presque toutes les familles sont apparentées à un prêtre ou à une religieuse. Cette fécondité spirituelle incontestable sort de l'ordinaire. Voilà la confidence de Mgr Théas, le 13 octobre 1940, dans son village natal, dans sa paroisse natale de Barzin, où il avait été justement baptisé au lendemain de sa naissance par son oncle prêtre, qui à ce moment-là était curé de Bielle, en vallée de Sceaux. Il a fallu 24 heures pour venir baptiser son neveu.
Pierre-Marie Théas, le jeune prêtre, est manifestement brillant. Bon, il va être en paroisse, vicaire, mais assez vite, puisqu'il a un doctorat en droit canonique. Ouais. Il devient professeur, il progresse, il devient quand même quelqu'un de reconnu pour ses qualités intellectuelles.
Il faut parler un petit peu de son long séjour à Bayonne, 17 ans comme professeur de séminaire, c'est quand même, ça fait quand même
oui.
Toute une durée. Et ce temps lui a été extrêmement profitable, d'abord parce qu'il a pu approfondir sa spiritualité, donc qui est centrée sur l'Eucharistie. Il a été notamment aumônier du Carmel, il a fait beaucoup de catéchèses qui ne se faisaient pas fréquemment à cette époque-là. Il a fait de la formation chrétienne pour des dames et des demoiselles qui allaient devenir catéchistes. Il a été responsable de l'œuvre des vocations pour le diocèse de Bayonne. Voilà, autant de choses qui lui ont... Et puis, il a enseigné la théologie morale et il a été, comme on dit, directeur, c'est-à-dire directeur de conscience de séminaristes pour les accompagner. Mgr Théas est un homme qui en impose, de par sa stature, de par son côté terrien, paysan, enraciné. En même temps, c'est un intellectuel d'un niveau certain. Et en même temps, c'est profondément un homme spirituel. C'est-à-dire que pour lui, le Carmel, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. C'est Sainte Thérèse de Jésus, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Les pères de Betharam, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. C'est Saint-Michel Garicos. c'est toujours cette aventure de la sainteté. Quand il arrive à Montauban, il va découvrir un univers qu'il ne connaissait absolument pas. Par un concours de circonstances, il ne peut pas habiter son évêché pendant les premiers mois. Il est donc logé au séminaire, ce qui ne change pas beaucoup. Et là, il va sympathiser avec les prêtres, etc. Et il s'aperçoit que les prêtres ont une mentalité de résistant. Et notamment, petit détail mais qui a toute son importance, les prêtres de Montauban écoutaient déjà en 1940 la Radio Londres. Et lui, pour lui, c'est quelque chose qui n'était pas du tout... Il leur dit, mais c'est interdit. Voilà. Oui. Donc, ce n'était pas du tout son approche. Alors, il passe la première année à regarder, à observer, et il se met à prendre des contacts, à faire le sommaire, c'est un homme de contact, à faire le tour de son diocèse, et très vite, voilà, sans se poser de questions, il peut habiter son évêché, les travaux étant terminés, et il va donner toute une orientation à ce diocèse. Dès 1941, il organise une journée mariale, qui va regrouper pas mal de diocésains. À l'issue de cette journée mariale, il dit son désir de construire dans le parc de son évêché une grotte de Lourdes, puisqu'on ne peut plus aller à Lourdes en pèlerinage, et bien pour que cette grotte devienne le lieu de pèlerinage du diocèse. L'année suivante, il va consacrer cette grotte donc en 1942. En 1943, il va consacrer le diocèse de Montauban au cœur immaculé de Marie. Et en 1944, son projet était de consacrer le diocèse de Montauban au sacré cœur de Jésus.
Voilà. Nous allons peut-être nous arrêter quelques instants, si vous le voulez bien, Père Régis Marie de la Tessonnière, parce que juste après la pause, vous nous raconterez tout de même cet été 1942, cet acte fort qui pose officiellement Monseigneur Pierre-Marie Théas, sur lequel vous publiez, alors je le rappelle, « Mes prisons et leur premier lendemain », c'est son journal de juin à décembre 1944, aux éditions Honto, et toujours chez le même éditeur, « Homélie pour la fête de Notre-Dame de Lourdes », signé Mgr Pierre-Marie Théas. A tout de suite.
Écoutez Présence, c'est votre radio. Soutenez Radio Présence. Qu'elle devienne aussi la radio de beaucoup d'autres.
De passage à Lourdes. De passage à Lourdes.
Le père Régis Marie de la Tessonnière, chapelain du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, s'est plongé ces derniers mois dans la vie, l'histoire et les écrits de Mgr Pierre-Marie Théas, qui fut évêque de Tarbes-Lourdes. Entre 1947, enfin 46, il arrive à Lourdes, et puis 1970. Mais c'est toute une vie qui a précédé cet épiscopat à Lourdes qui va marquer très fortement, osons le dire, la France, parce que les prises de position de ce professeur issu du diocèse de Bayonne-lès-Sécaré-Oloron, devenu évêque de Montauban en 1940, ces prises de position en 1942, Père Régis Marie de la Tessonnière, quel courage de dénoncer la persécution que vivent les Juifs à ce moment-là. Tout le monde n'osera pas faire ce qu'il a fait, loin de là. Vous nous disiez, quand il arrive à Montauban, en fait, Mgr Théas, il n'écoute pas Radio Londres.
Non. Non.
Bon, il est formé, il a été professeur, il a été professeur de séminaire, directeur de séminaire. Et il découvre un univers de résistants, c'est ce que vous dites.
Alors, il découvre cela, et petit à petit, lui, il entre très, très facilement, car Mgr Théas va, à travers sa vie, nous montrer quelque chose, on développera au fur et à mesure. D'une part, il est habité par une grâce d'acceptation, et d'autre part, par une grâce de résistance.
Oui.
Voilà. Alors, on est tous à peu près comme ça, mais lui ne accepte ce que nous n'acceptons pas, et il résiste là où nous ne résistons pas forcément. Voilà. Alors, que va-t-il se passer pendant l'été 42? Le grand événement, le plus grand événement, c'est bien sûr ce qu'on a appelé la rafle du Bel-Dil à Paris, 16-17 juillet 1942. Ce sont 13 152 juifs qui sont arrêtés. Et là, ça va être un scandale épouvantable. et tout le monde réagit, et tous ceux qui réagissaient un petit peu dans l'ombre vont sortir au grand jour. Alors l'Église va prendre position très rapidement par l'intermédiaire de la conférence des cardinaux et archevêques, qui vont tout de suite faire parvenir au chef de l'État, au maréchal Pétain, une lettre de protestation. Cette lettre de protestation va être ensuite difficilement, mais elle va être diffusée, il faudra un peu plus de 5 semaines pour que tous les évêques la reçoivent. La France est coupée en deux, donc la conférence des cardinaux et archevêques, il y avait 3 cardinaux à ce moment-là, 2 qui étaient à Paris, le cardinal archevêque de Paris et le cardinal Suard, et le cardinal Liénard, archevêque de Lille, et le cardinal Gerlier à Lyon, qui était lui pour la zone non occupée. Voilà. Et c'est le 15 août de 1942 que l'ensemble des évêques aura reçu cette lettre de protestation. L'idée, c'était que cette lettre de protestation soit ensuite répercutée dans tous les diocèses à la manière de ce qui avait été fait en Allemagne en 1937, quand Pie XII, sort sa lettre encyclique contre le nazisme, Mit Brennender Sorge. Eh bien, les évêques allemands ont été invités à faire lire cette lettre dans leur paroisse pendant 2 mois consécutifs, donc pendant 8 dimanches. Et l'idée, c'était de faire la même chose, c'est-à-dire que chaque évêque puisse répercuter cette lettre de protestation dans son diocèse. Alors, le premier qui va le faire, c'est l'archevêque de Toulouse, Monseigneur Saliège, et c'est le 23 août 1942 que sa lettre est lue en chaire dans toutes les églises du diocèse de Toulouse. Il se trouve que le lendemain, le lundi 24 août, il y a des opérations policières dans la région de Montauban et 173 juifs, hommes, femmes, enfants, sont arrêtés. Et Monseigneur Théas va faire sa lettre le 26 août, le mercredi 26 août, qui sera lue le dimanche suivant, 30 août, dans toutes les églises du diocèse de Montauban. Cette lettre va prendre en compte en même temps la rafle du Vel'd'Hiv et en même temps ce qui vient de se passer à Montauban. Alors je lis cette lettre non sans émotion, car elle est lue chaque année depuis au lycée Pierre-Marie Théas de Montauban, depuis sa fondation à la rentrée 2008-2009. La lettre est courte. Montauban, le 26 août 1942. Mes bien chers frères, des scènes douloureuses et parfois horribles se déroulent en France sans que la France en soit responsable. À Paris, par dizaines de milliers, des Juifs ont été traités avec la plus barbare sauvagerie. Et voici que dans nos régions, on assiste à un spectacle navrant. Des familles sont disloquées, des hommes et des femmes sont traités comme un vil troupeau et envoyés vers une destination inconnue, avec la perspective des plus graves dangers. Je fais entendre la voix indignée de la conscience chrétienne et je proclame que tous les hommes, ariens ou non-ariens, sont frères parce que créés par le même Dieu, que tous les hommes, quelle que soit leur race ou leur religion, ont droit au respect des individus et des États. Or, les mesures antisémites actuelles sont un mépris de la dignité humaine, une violation des droits les plus sacrés de la personne et de la famille. Que Dieu console et fortifie ceux qui sont iniquement persécutés, qu'il accorde au monde la paix véritable et durable fondée sur la justice et la charité. Pierre-Marie, évêque de Montauban. Et en dessous, il est précisé, à lire sans commentaire à toutes les messes, dans toutes les églises et chapelles du diocèse le dimanche 30 août 1942. Alors cette lettre, l'idée de Mgr Théas, c'était de l'envoyer par la poste à tous les curés. En réalité, elle a été portée par des cyclistes, donc à bicyclette, par 3 personnes, afin d'échapper à la censure. Et parmi ces 3 personnes, il y a la fameuse Marie-Rose Gineste, qui travaillait à l'évêché au secrétariat du service social, et qui elle, était une résistance de la première heure, voilà, et qui a un peu introduit Mgr Théas dans... Alors, Monseigneur Théas est un résistant, pas simplement par l'écrit ou la parole. Il a lui-même caché des juifs, il a favorisé la fuite de juifs vers la Suisse ou vers l'Espagne. Il a fait des faux certificats de baptême. Il a procuré à Marie Roginestre des faux tampons et des faux papiers d'identité, etc. Donc il s'est lui-même mouillé. Il a fait tout ce qu'il a pu auprès des congrégations religieuses pour que des juifs soient cachés, soient hébergés, y compris dans des cliniques déguisées en malades ou en blessés. Voilà, donc il s'est vraiment impliqué. J'étais très touché, il n'y a pas très longtemps, j'étais à Montauban pour justement pour une conférence pour parler de Monseigneur Théas, et j'ai vu une dame à peu près de mon âge me disant « Sans Monseigneur Théas, je ne serais jamais né, car il a sauvé mon père. » Il a sauvé mon père qui était à Montauban, il l'a fait partir, il est arrivé à Annecy, et d'Annecy, il a pu partir en Suisse.
Toute cette action qu'il mène, donc vous dites, au-delà des mots, hein, les mots qui sont lourds et forts,
oui,
quand même, une prise de position officielle, ça le conduit à être incarcéré.
Il se trouve que cette lettre va avoir un écho extraordinaire, notamment par rapport à Radio Londres, qui va radiodiffuser ce texte plusieurs fois, mais aussi ce texte va être repris par toute la presse de la Résistance. Derrière ça, il y a le fait que la Résistance spirituelle était déjà bien organisée. On pense au père Chaillet, par exemple, avec sa revue, au père jésuite. Mais cette lettre va donner à la fois confiance, courage à tous ceux qui étaient résistants de leur côté, et notamment qui prenaient soin des juifs, mais aussi à tous ceux qui spirituellement étaient déjà engagés. Alors, après ça, Monseigneur Théas ne s'est pas arrêté, car il va avoir en 43 et 44 un véritable mano à mano avec la commandantour de Montauban, et à chaque fois qu'il aura quelque chose, il écrit une lettre, on lui répond, c'est toujours très courtois, mais alors c'est vraiment très extrêmement précis. Voilà. Donc il est effectivement dans le collimateur. Alors pourquoi a-t-il été arrêté? Il a été arrêté le 9 juin 1944, donc c'est quelques jours après le débarquement. Des listes de personnalités étaient prêtes à travers la France, et des personnes qui ont été arrêtées tout de suite pour servir d'otage. Alors lui-même a été arrêté dans son évêché à 2h du matin, transféré dans une prison de Montauban, et ils sont partis en train, 5 jours de train, jusqu'à Compiègne. Quand je dis « ils », c'est des centaines de détenus, parmi lesquels il y avait un autre évêque, l'évêque d'Agen, mais qui ensuite a été libéré assez rapidement. Tous les professeurs, le recteur de l'Institut catholique de Toulouse, le fameux Monseigneur de Solages, différents professeurs, les hommes politiques, le maire de Toulouse, par exemple, Monsieur Bailey, directeur de la Dépêche du Midi, un certain nombre de députés, des militaires, des préfets, enfin, des personnalités. Et ils se sont retrouvés, donc, internés à Compiègne, qui était un camp, à ce moment-là, de transit pour la déportation ensuite vers l'Allemagne. Il faut préciser qu'au moment même de son arrestation, il bénéficie d'une grâce qu'il appelle lui-même une grâce d'acceptation. Il dit ceci, il vient de m'arrêter. Dieu m'accorde alors une grâce insigne. Je sens subitement dans mon âme profonde une paix ineffable, un sentiment de joie à l'idée que ma liberté allait m'être enlevée dans quelques secondes. Et là, on est complètement sur un autre registre. Il prononce ensuite cette prière de Saint Ignace de Loyola. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Tout ce que j'ai et possède, c'est toi qui me l'as donné. À toi, Seigneur, je le rends. Tout est à toi, disposant selon ton entière volonté. Donne-moi ton amour et ta grâce, c'est assez pour moi. Il est ensuite passé à son bureau. Il a quand même ceux qui viennent d'arrêter, des SS là, avec fusil mitrailleur qui l'encadrent, pour prendre son bréviaire. Il a le temps de rentrer dans la chapelle de l'évêché pour refaire un acte d'acceptation. Mon Dieu, j'ignore ce qui m'attend, mais vous savez tout et vous dirigez tout. votre permission, mon Dieu, je vous aime, je me donne à vous.
Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, si vous le voulez bien, Père Régis-Marie de la Tessonnière. Et je renvoie tous nos auditeurs à ce premier livre que vous avez fait paraître sur Monseigneur Pierre-Marie Théas, Mes prisons et leur premier lendemain, qui est en quelque sorte son journal de juin à décembre 1944. Il y a d'autres textes, il y a une préface de Monseigneur Brouvet. C'est très enrichissant de se plonger dans la réalité de cet homme à ce moment-là de sa vie. Ce que je vous suggère, c'est que nous nous donnions rendez-vous pour une autre émission où nous parlerons de la suite, parce que la suite est tout aussi riche. Même si, évidemment, humainement et au point de vue de l'émotion, ce qu'il vit là à ce moment-là est très fort, il deviendra évêque de Tarbes-et-Lourdes. Il aura un rôle particulier au sein de la mouvance du Concile Vatican II, la dévotion mariale. Nous allons parler de tout ça une prochaine fois. Merci beaucoup.
Merci.
Emmanuel Pellard. Pour vous, chers auditeurs, nous avons conçu cette année un cycle d'émissions Vivante Église appelé l'école de la prière. Le but, nous aider à entrer dans la prière ou à cultiver cette habitude. Qui d'entre nous ne rêve pas en effet d'avoir une intimité profonde et suivie avec Dieu? Pourtant, nombreux sommes-nous à pouvoir passer notre vie à ne pas savoir comment prier. Alors, cette émission Vivante Église réalisée en partenariat avec les Carmes de Toulouse, le premier lundi de chaque mois, est pour vous. Je vous donne rendez-vous ce lundi 7 mai à 9h pour l'avant-dernière émission de cette série sur le thème « La Vierge Marie dans l'horizon ».
Chaque semaine sur Radio Présence, les écrivains présentent leurs derniers ouvrages et se confient au micro de Monique Fauchet.